car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le don précieux de ta parole, la Bible, vivante et efficace. Et nous prions que cette parole, sous l'effet bienfaisant de ton Saint-Esprit, pénètre jusqu'à la division de notre âme et de notre esprit, de nos jointures et de nos moelles, qu'elle soit juge des sentiments et des pensées de notre cœur. S'il te plaît, que cette parole puisse nous aider à comprendre ce que tu attends de nous, et que ton Saint-Esprit nous donne des forces d'accomplir ta volonté. Tout ça, nous le prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, bonne fête à tous les amoureux, dans sa prédication sur le livre de l'Exode, notre pasteur fait une série de prédications sur le livre de l'Exode, les 19 premiers chapitres, eh bien Alex avait cité un extrait du traité d'athéologie de Michel Onfray. Michel Onfray qui est un philosophe contemporain athée. Est-ce que vous vous souvenez de cette citation? La voici. Je cite. « Dieu, fabriqué par les mortels à leur image hypostasiée, n'existe que pour rendre possible la vie quotidienne, malgré le trajet de tout un chacun vers le néant. Les uns adorent les pierres, des tribus les plus primitives aux musulmans tournés autour du Bétil de la Kaaba, d'autres la lune ou le soleil. Certains un dieu invisible, impossible à représenter sous peine d'idolâtrie. D'autres une figure anthropomorphe, blanche, mâle, arienne évidemment. Telle voit Dieu partout, en panthéiste accompli. Tel autre, adepte de la théologie négative nulle part. Une fois il est adoré couvert de sang, couronné d'épines, cadavre. Une autre, dans un brin d'herbe, sur le mode oriental Shinto. Il n'existe aucune facétie inventée par les hommes qui n'ait été mise à contribution pour étendre le champ des possibles divins. » Fin de citation. Pas mal, hein? Alors, avec tout le respect que je dois à Michel Onfray que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ses débuts lorsqu'il était en train de faire des conférences, lors de la publication de ses premiers livres, je ne peux personnellement qu'adhérer à l'analyse que notre pasteur Alex avait faite de cette citation. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous avez remarqué la subtilité avec laquelle Michel Onfray assimile le Dieu de la Bible à toutes les divinités de toutes les religions du monde entier? Pour défendre sa théorie de l'athéisme, Michel Onfray est clairement athée, traité d'athéologie, pour défendre sa théorie de l'athéisme, le philosophe adopte finalement une stratégie assez saine, n'est-ce pas, qui consiste à mettre tous les dieux, toutes les divinités dans le même panier, dans le même sac, c'est ce qu'Alex nous avait dit, et à s'en débarrasser. Facile, non? Mais je vous pose une question. Les choses sont-elles aussi simples? Alors, je ne sais pas si vous êtes athée, comme Michel Onfray, je ne connais pas tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes croyant, je sais que certaines personnes ici présentes sont croyants. Je ne sais pas si vous êtes agnostique, si vous pensez que la vérité de certaines propositions, dont l'existence de Dieu, est inaccessible, je ne sais pas. Mais ce soir, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que Dieu, tel qu'il se révèle dans la Bible, dans le livre que vous tenez peut-être entre vos mains, que ce Dieu-là n'a rien à voir, avec les autres divinités auxquelles les hommes rendent un culte depuis la nuit des temps. Et ce que je suis en train de dire est en train de vous surprendre, peut-être. Mais le Dieu de la Bible est différent de tous les autres. C'est ce que vous auriez constaté si vous aviez vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, quand le christianisme a commencé à émerger dans le bassin méditerranéen. Si vous aviez vécu à cette époque, vous auriez peut-être eu cette conversation avec les premiers chrétiens. Cette conversation est en fait imaginée par un pasteur anglais. Je me permets de vous la livrer. Voilà ce que ça donne. Imaginez donc que vous êtes chrétien et voilà ce qu'on vous poserait comme question. Mais dites-moi les amis, vous êtes chrétien vous?
Oui.
Où est votre temple? Et là, réponse des chrétiens, temple? Mais quel temple? Nous n'avons pas de temple.
Comment ça?
Pas de temple? Mais où vos prêtres officient-ils? Réponse des chrétiens, des prêtres? Quels prêtres? Nous n'avons pas de prêtres.
Comment ça?
Pas de temple? Pas de prêtres? Mais comment ça? Où sont vos sacrifices pour être pardonnés de vos péchés, pour être en règle avec Dieu?
Sacrifice?
Quel sacrifice? Nous ne faisons plus de sacrifice. Et là, la personne qui vous interroge, mais c'est abracadabrantesque. C'est hallucinant. On n'a jamais vu ou entendu ça. En quoi croient ces chrétiens? En quoi croient-ils? Pas de prêtre, pas de temple, plus de sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ça? En quoi croient ces chrétiens? Quel est ce Dieu que les chrétiens adorent? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ce soir. La réponse à cette question se trouve dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et notamment dans une parabole, c'est-à-dire une parole imagée, souvent intitulée « le fils prodigue », mais que j'aimerais rebaptiser ce soir « le Dieu prodigue ». Sous l'influence, je l'avoue, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, sous l'influence, je l'avoue, d'un pasteur et d'un auteur presbytérien, auteur d'un livre intitulé « Le Dieu prodigue », un livre que je vous conseille vivement de lire. Pourquoi un Dieu prodigue? Eh bien, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que la parabole que vous connaissez peut-être par cœur, hein, et qui se trouve dans l'évangile de Luc, peut-être parce que dans cette parabole, il n'y a pas un fils, mais deux fils, comme nous allons le voir. Et puis, deuxièmement, parce que cette parabole est avant tout une parabole sur Dieu, dans laquelle Jésus, comment dire, éclate, fait exploser à la dynamite toute conception humaine de Dieu et révèle comment les hommes peuvent être en règle, en paix, en relation avec lui. Si vous n'êtes pas chrétien ce soir, est-ce que ça vous dit d'être en règle, en paix, en relation avec Dieu? C'est possible. Alors ce soir, j'aimerais voir avec vous deux choses. Je précise que le plan de ce message se trouve dans vos bulletins, à la deuxième page du bulletin. Donc premièrement, j'aimerais voir deux fils perdus, dans un premier temps, et dans un second temps, j'aimerais voir deux conceptions revues. Donc dans un premier temps, deux fils perdus. La parabole du Dieu prodigue, la parabole que nous allons lire ensemble dans quelques secondes, est en réalité une parabole en deux actes, un peu comme au théâtre. Je ne sais pas si vous avez récemment été au théâtre. Deux actes. Donc, premier acte, des versets 11 à 24, un acte que nous pourrions intituler « Le fils cadet perdu ». On y va? Luc chapitre 15, des versets 11 à 24, et je vous propose, dans un premier temps, de lire la première scène, des versets 11 à 12. Il fait référence à Jésus, qui vient de donner deux paraboles. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Est-ce que vous avez remarqué le double choc? Ce n'est pas un cookie, hein, ce n'est pas un parfum de glace. Le double choc. Double chocolat. Vous n'allez jamais à Gandas? Bref. Le double choc des versets 11 et 12. Premier choc. Regardez encore avec moi le verset 12. Hein. Un fils cadet, donc plus jeune, demande à son père, certainement un patriarche du Moyen-Orient, de lui donner la part de la fortune, c'est-à-dire de l'héritage qui lui revient. Mais quel choc! Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais à l'époque, les fortunes, les héritages étaient répartis à la mort du père. Si bien que quand le fils cadet, le plus jeune, demande sa part d'héritage, alors que son père est encore en vie, il humilie toute sa famille. en considérant son père comme mort, absolument. Il considère son père comme mort. Mais c'est une attitude déconcertante. Comment le père va-t-il réagir? Eh bien, de manière tout aussi déconcertante. Regardez la réaction du père, hallucinante. Au lieu de déshériter et de renier son fils comme il le mériterait après tout, le père accepte de partager son bien. Et dans l'original en grec, c'est bios. Il accepte littéralement de partager sa vie, bios, qui a donné biologie, biosphère, bioman, etc. Il accepte de partager sa vie entre ses deux fils. Pour cet homme, qui, rappelez-vous, est un riche propriétaire terrien, partager son bien revient non seulement à perdre ses terres, sa vie, mais aussi son fils qui rejette son amour. « Papa, père, je ne veux pas de toi. Tout ce que je veux, c'est ton argent. » Si vous êtes père ce soir, j'espère que cela ne vous arrivera jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà été rejeté par quelqu'un dans la vie. Mais ça fait mal. Très mal. On continue. Scène 2, des versets 13 à 19. Voyons comment l'histoire continue. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien aimé se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Le fils part donc à l'étranger, dans un pays lointain, et dilapide toute sa fortune en vivant dans la débauche. Peut-être en fréquentant des prostituées sur le cours Charlemagne. Le cours Charlemagne, pour ceux qui sont lyonnais, c'est à deux pas d'ici, hein, d'accord ? Les camionnettes dans lesquelles se trouvent des prostituées. Cet homme devient SDF, sans domicile fixe. Il se fait embaucher en tant que gardien de port. Après tout, vous allez me dire, il n'y a pas de sous-métier. Mais personne ne lui donne à manger. Personne. Et pour la petite histoire, si vous vous posez la question, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une caroube? Alors j'ai fait des recherches, merci à mon encyclopédie Larousse et à Wikipédia. Mais la caroube est en réalité un fruit contenant une pulpe très nutritive et contenant notamment des éléments très efficaces contre la gastro-entérite des nourrissons. Maëlys et tous ceux qui étudient en médecine, Sephora, c'est bon à savoir. Et à défaut de caroube, cette semaine nous avons dû donner à Emma, notre fille, du smecta et du motilium pour soigner sa fidèle gastro. C'était pas joli à voir. Très fidèle d'ailleurs la gastro, elle a duré 3 ou 4 jours. Hein. Bref, toujours dit que cet homme, ce fils cadet est au fond du trou. Qu'est-ce qu'il va faire? Que faire? Eh bien il va commencer à réfléchir, vous avez vu? À penser aux employés qui mangent à leur faim, chez son père, quand tout à coup, Eureka! Eureka, ça veut dire j'ai trouvé, hein, c'est le verbe trouver en grec, eurisko. Eureka! Il a une idée. Quelle est cette idée? Il va rentrer chez son père, il va reconnaître qu'il a péché contre lui, il va admettre qu'il n'est plus digne d'être considéré comme son fils. Il va lui proposer d'être son employé. Vous comprenez pourquoi, hein? Pour se racheter et se faire pardonner de sa conduite. Bonne idée, non? C'est une bonne idée? La question qui se pose, c'est comment est-ce que le père va réagir à cette proposition? Va-t-il accepter ou refuser? Eh bien, la réponse se trouve dans la scène suivante que je vous propose de découvrir. Le suspense est à son comble. Scène 3, Luc chapitre 15, des versets 20 à 24, que je vous propose de lire ensemble. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. En apercevant son fils, comment le père réagit, vous avez vu ? Il ne peut s'empêcher de courir vers lui. Et là encore, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est une attitude humiliante, tellement humiliante pour un homme important qui doit sans doute relever sa robe pour courir. Mais imaginez la scène, considérant que l'équivalent de cet homme pourrait être aujourd'hui un riche promoteur immobilier. Il court vers son fils en relevant sa robe pour éviter de se prendre les pieds. C'est humiliant. Il se jette à son cou. Il s'abandonne émotionnellement. Il l'embrasse et il le réhabilite gratuitement, gracieusement, une faveur complètement imméritée, en lui faisant revêtir la plus belle robe. Entre parenthèses, c'est peut-être la sienne, celle du père. En lui mettant une bague au doigt, des sandales aux pieds, et en tuant un veau gras. Un détail, comme nous allons le voir, très important pour la suite de l'histoire. Un veau gras, un plat mais extrêmement raffiné, équivalent un peu, comment dire, au chapon. Vous avez déjà mangé du chapon à Noël ? Miam miam, hein ? En mangeant du magret de canard. Avec du sel et du poivre. Délicieux. Un plat équivalent au gigot d'agneau. J'aime beaucoup le gigot d'agneau. Vous voyez, ce sont des viandes que nous ne mangeons pas tous les jours, hein, enfin. Pas moi en tout cas. Le veau gras à l'époque, ce n'est pas tous les jours qu'on en mange. La viande, c'est un plat de luxe. Dans cette scène, c'est un peu comme si le père disait à son fils, « Mon enfant, tu ne vas pas travailler pour te racheter, te faire pardonner. Je ne vais pas attendre pour avoir la joie de te réhabiliter, de te réintégrer dans la famille. Non ! Je te pardonne gracieusement et gratuitement. Tu ne vas strictement rien payer. » En fait, c'est moi ton père qui vais payer pour fêter ton retour. C'est moi qui vais payer un veau gras, une bague en or, des sandales. C'est moi qui vais payer pour fêter ton retour. Mais c'est abracadabrantesque, c'est hallucinant. On n'a jamais vu ou entendu ça, c'est dingue. Comment est-ce possible? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et en fait, je pense même que l'histoire est en train d'atteindre son point culminant. N'oublions jamais que dans la parabole du fils, ou plutôt du Dieu prodigue, il n'y a pas un fils, mais il y a deux fils. Et je pense que Jésus est en train d'atteindre son point culminant. Il est en train de dire ce qu'il veut dire. Attention. Des versets 25 à 30 et l'acte 2. Donc premier acte, des versets 11 à 24, le fils cadet perdu. Deuxième acte, comme c'est sur vos programmes, le fils aîné perdu. Versets 25 à 30 que je vous invite à lire. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà est mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Deuxième acte, le fils aîné, perdu. En apprenant que son frère cadet est de retour, et que son père a tué le veau gras, rappelez-vous du veau gras, pour fêter son retour, comment le frère réagit-il? Il est, pardonnez-moi l'expression, furax. Je le mets entre guillemets. Il est complètement furax. Il refuse de participer à la fête. Et il humilie son père. Mais est-ce que vous avez remarqué comment ce fils humilie son père? D'abord, il ne l'appelle même pas père. Il dit, voici. Il ne dit pas papa, père, il dit voici. Il déverse sa rage sur lui. Regardez un peu encore sa réaction. Je te sers depuis des années. J'ai toujours obéi, j'ai toujours été sage comme une image. Et que m'as-tu donné? Que m'as-tu donné pour que je puisse faire la fiesta avec mes amis? Rien. Que dalle. Nada. Même pas une chèvre. Même pas une chèvre. Nada, c'est de l'espagnol. Hein, c'est du brésilien aussi. C'est vrai? Mais ton fils t'humilie en public. Vous vous rappelez? Hein? Il t'humilie en te considérant comme mort. Il dilapide sa fortune en fréquentant des prostituées à Lyon. Il revient. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes la plus belle robe. Peut-être la tienne d'ailleurs. Ce que tu n'as jamais fait pour moi. Tu mets une bague à son doigt. La plus belle peut-être. Ce que tu n'as jamais fait pour moi. Des sandales à ses pieds. Et par-dessus le marché, tu tues un veau gras. Un veau gras. Pourquoi fais-tu pour lui ce que tu n'as jamais fait pour moi alors qu'il ne le méritait pas? Mais c'est pas juste. C'est pas juste. Comment le père va-t-il réagir à cette nouvelle humiliation? Le père est humilié. Eh bien, je vous propose de découvrir le dénouement de cette véritable pièce de théâtre, finalement, de cette parabole. Le dénouement des versets 31 à 32, les deux derniers versets. « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. » Au lieu de déshériter et de renier son fils, mais comme il l'aurait mérité, qu'est-ce que fait le père? Comment réagit-il? Mais mes amis, est-ce que vous avez conscience que ce père, dans cette parabole, fait preuve d'une tendresse rarissime? Rarissime. Mon fils, nous dit-il. Mon fils. Tu ne m'appelles plus père, tu restes mon fils. Mon enfant. Tout ce que j'ai est à toi. Ton frère est rentré. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Réjouis-toi et joins-toi à la fête. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Le fils aîné va-t-il reconnaître qu'il a péché contre son père? Est-ce qu'il va rentrer dans la maison du père? Et puis comment le fils cadet va-t-il réagir? Père et fils vont-ils finalement se réconcilier et vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours comme dans un bon vieux film d'amour américain? Réponse, nous n'en savons strictement rien. La parabole s'arrête là, regardez, il n'y a pas de verset 33, hein. Il y a le chapitre 16. Nous n'en savons strictement rien. Et la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi Jésus ne nous dit pas comment le fils aîné a réagi? Je pense que c'est la clé de la parabole. Peut-être parce qu'il attend, peut-être parce que Jésus, qui est en train de raconter cette parabole, attend une réponse de la part des personnes auxquelles il s'adresse. Et peut-être qu'il attend une réponse de votre part ce soir, de ma part même. Est-ce qu'on pourrait lire les deux premiers chapitres, les deux premiers versets du chapitre 15? Vous avez juste à tourner la page, sinon je vous les lis. Vous savez que tout texte hors de son contexte est un prétexte. Merci les étudiants du GBU, groupe biblique universitaire. Tout texte hors de son contexte est un prétexte. À qui Jésus s'adresse dans cette parabole? La clé se trouve dans les deux premiers versets du chapitre 15, que je vous lis. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais Jésus leur dit cette parabole, en fait plusieurs paraboles, dont celle du Fils ou du Dieu prodigue. Mais dans ces deux premiers versets, Jésus attire notre attention sur deux catégories de personnes. Est-ce que vous les avez vues, ces deux catégories? Au verset 1, quelle est la première catégorie de personnes? Les péagers, les inspecteurs des impôts de l'époque. C'est pas encore le moment de payer les impôts, rassurez-moi. Non, c'est bon. Les péagers et les pêcheurs, des prostituées par exemple. Et quelle est leur attitude? Est-ce que vous avez vu? Eh bien, ils s'approchent de Jésus pour l'entendre. Hein. C'est le verset 1 qui le dit. Avez-vous remarqué la deuxième catégorie de personnes sur lesquelles Jésus attire notre attention? C'est dans le texte, au verset 2, les pharisiens, des responsables religieux juifs extrêmement soucieux du respect de la loi, les pharisiens donc, et puis les scribes, absolument, des spécialistes de la loi. Et comment les pharisiens et les scribes réagissent-ils par rapport à Jésus? Ils murmurent et ils s'indignent contre lui. Pourquoi? Parce que Jésus mange avec des pécheurs. Et pour les pharisiens, un homme qui mange avec des pécheurs s'associe à leur état, en vertu d'un principe de pureté rituelle. Mes amis, l'identification de ces deux catégories de personnes, d'un côté les péagers et les pécheurs, de l'autre côté les pharisiens et les scribes, l'identification de ces deux catégories de personnes est absolument fondamentale pour comprendre cette parabole. Car ces deux catégories représentent deux attitudes différentes vis-à-vis de Jésus et deux façons d'être aliénés, séparés de Dieu. Je vous pose cette question. Quel fils représente selon vous les péagers et les pécheurs qui s'approchent de Jésus pour l'écouter? Quel fils de la parabole du fils prodigue? Le fils cadet? Un homme irréligieux? Un homme immoral et perdu? Vous vous rappelez, il a fréquenté des prostituées. C'est le pécheur par excellence. D'accord? Maintenant, quel fils représente les pharisiens et les scribes qui murmurent contre Jésus dans la parabole? C'est pas trop dur. Mais c'est le fils aîné, voyons. Un homme éminemment religieux. Un homme éminemment moral. Mais malheureusement, tout aussi, si ce n'est encore plus perdu que son frère. Alors dans cette parabole, Jésus s'adresse bien sûr à tous les hommes, dont nous ce soir, puisque nous sommes en train de lire cette parabole. Mais il s'adresse, l'avez-vous vu, en particulier aux pharisiens. C'est à leur objection. Comment est-ce que Jésus peut manger avec des pécheurs? C'est à leur objection que Jésus répond. Hein. C'est leur conception de Dieu qui l'éclate, qui fait exploser à la dynamite, pardon. Il ne faut pas faire exploser le micro non plus. Hein. C'est leur conception de Dieu qui fait exploser à la dynamite. Et qu'il redéfinit pour leur faire comprendre comment être en règle, en paix, en relation avec Dieu. Premièrement donc, deux fils perdus. Deuxièmement, deux conceptions revues. C'est le deuxième et le dernier point de ce que je suis en train de dire. Deux conceptions revues. Revues, c'est-à-dire revues et corrigées par Jésus, redéfinies, si vous voulez. Et la première conception que Jésus est en train de redéfinir dans l'esprit des pharisiens, et peut-être dans la vôtre ce soir, c'est la conception de Dieu. Alors je ne sais pas quelle est votre conception de Dieu. Vous pensez peut-être que Dieu est un vieillard sénile qui est en train de divaguer sur son nuage, avec des anges qui jouent de l'harpe à côté de lui. C'est possible, hein, c'était ma conception de Dieu avant de devenir chrétien il y a bientôt 12 ans. Ou alors votre conception de Dieu est celle d'un père fouettard. Pas bien, méchant. Ou alors votre conception de Dieu est peut-être celle de Richard Dawkins, un biologiste britannique qui a écrit ceci dans un livre au vitriol intitulé « Pour en finir avec Dieu ». Il est très difficile d'être plus explicite pour écrire un livre contre Dieu. Je cite notre ami Richard Dawkins. « On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant. Jaloux et fier de l'être, il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter. » Adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunatique et malveillant, ce misogyne homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste pratique l'infanticide, le génocide et le filicide. Le fait de tuer un fils. Fin de citation. Vous pouvez reprendre vos esprits. Ce portrait peu glorieux est-il celui du Dieu de la Bible, selon vous? J'espère de tout cœur que la parabole que nous avons lue ce soir, où le Père représente Dieu, en fait, comme dans toute la Bible et comme dans l'évangile de Luc, j'espère vraiment que cette parabole que nous avons lue nous permet de comprendre que ce n'est pas du tout, le cas. Le Dieu de la Bible n'est ni un vieillard sénile, ni un père fouettard, ni un revanchard assoiffé de sang, mais un Dieu prodigue. Vous savez ce que ça veut dire, prodigue, hein? C'est un adjectif signifiant qui dépense sans mesure. Certes, le fils cadet est prodigue dans sa manière de dépenser l'argent de son père, mais c'est Dieu qui est prodigue, comme nous allons le voir, dans sa manière de dispenser son amour. C'est un Dieu juste, c'est vrai, qui, comme nous, n'aime pas l'injustice, et qui se doit, en tant que Dieu juste, de punir l'injustice. Mais c'est aussi un Dieu d'amour. Non? Un Dieu qui accepte d'être humilié. Un Dieu qui accepte de donner sa vie, bios, de pardonner gracieusement, d'aimer sans mesure. Est-ce que vous connaissez cette citation de Saint Augustin? La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est beau, non? La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Un Dieu qui ne ressemble à aucun autre père à l'époque. Certains contemporains de Jésus avaient vraiment une conception patriarcale, dure, inflexible du père de famille. Le Dieu de la Bible, mes amis, est le père que je n'ai jamais eu, personnellement. Jamais. Et que j'aurais tellement eu à voir dans mon enfance et pendant mon adolescence. J'aime beaucoup mon père, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est le père que j'aurais tellement eu à voir. Un père qui peut devenir le vôtre ce soir. Si simplement vous acceptez sa prodigalité, son amour. Un Dieu qui peut pardonner tous nos péchés, peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait. Il n'y a pas de péché trop grave que Dieu ne puisse pardonner. Encore faut-il reconnaître, comme le fils cadet, que nous avons tous péché, moi le premier, contre lui et contre les autres, d'une manière ou d'une autre. Première conception que Jésus redéfinit Dieu, un Dieu prodigue. Deuxième et dernière conception, je m'arrêterai là, le péché. Dans cette parabole, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Jésus donne deux définitions du péché. Une définition assez classique dans le premier acte, vous vous rappelez, le manque de respect. Respect qu'un fils doit à son père. L'égoïsme, la débauche et la désobéissance. Ni Dieu, ni maître, c'est le slogan des étudiants sur le campus de Bron. Ni Dieu, ni maître. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Non, c'est une pub pour Garnier, ça. Je fais ce que je veux, où je veux et quand je veux. Dieu n'existe pas. Je suis le propre Dieu de ma propre vie. Des actes de rébellion qui ont pour conséquence de nous séparer de Dieu. Et puis une définition beaucoup plus subtile. Est-ce que vous l'avez remarqué, cette définition? Beaucoup plus subtile dans le second acte. Le respect. Le service. L'obéissance. Des actes de rébellion qui, aussi surprenants que cela puisse paraître, ont aussi pour conséquence de nous séparer de Dieu. Alors je vous vois faire des yeux ronds, je vais m'expliquer, j'espère que vous allez comprendre là où je veux en venir. Pourquoi le fils aîné ne veut-il pas rentrer dans la maison du Père? La maison du Père qui est une image de la demeure céleste, hein, du ciel, du paradis. Qu'est-ce qui empêche le fils aîné de se joindre à la fête? La fête, c'est-à-dire la joie du salut, hein, suscité par une relation rétablie avec Dieu. Mais est-ce que vous avez remarqué ce qu'il dit à son père? Est-ce qu'il l'empêche de rentrer dans sa maison? Mais ce n'est pas du tout son péché qui l'empêche de rentrer. C'est ça. Mais c'est sa bonté, entre guillemets. C'est sa propre justice et son auto-justification. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas du tout son vice, mais c'est son service. Je t'ai toujours servi fidèlement. Ce n'est pas du tout sa désobéissance, c'est son obéissance. Je t'ai toujours obéi, j'étais toujours sage comme une image. Est-ce que vous avez remarqué comment ces paroles au verset 29 regorgent de ressentiment, d'amertume et de frustration? Je te servais depuis des années. Je t'ai toujours obéi. J'ai toujours été sage comme une image. Et qu'est-ce que tu as fait pour moi? Rien. Que dalle. Est-ce que vous discernez la subtilité du péché du fils aîné, dont la véritable motivation, dont la démarche intéressée, éclate au grand jour dans ces versets? Dans quel but le fils aîné sert-il son père? Dans quel but? Pourquoi lui obéit-il si fidèlement? Pour obtenir une récompense de sa part. Dans cette parabole, mes amis, Jésus est en train d'attirer l'attention des pharisiens, et peut-être la nôtre ce soir, sur une définition du péché beaucoup plus subtile que la première, mais tout aussi dévastatrice. L'obéissance à la loi peut être une stratégie pour gagner la faveur de Dieu, pour l'utiliser dans notre propre intérêt, pour marquer des points au championnat du monde des bonnes œuvres, en espérant que ça paye un jour, une vie sans problème, des réponses à la prière immédiate, un ticket pour le paradis. Avez-vous conscience qu'il est tout à fait possible, par exemple, de donner une pièce à un mendiant dans le métro, sur le métro B par exemple? C'est une bonne chose en soi, hein, mais non pas pour enrichir cet homme, mais pour nous enrichir aux yeux de Dieu. Pour gagner un ticket pour le paradis, par exemple. Avez-vous conscience, ai-je conscience, qu'il est tout à fait possible de pécher contre Dieu? Non seulement en faisant le mal, mais aussi en faisant le bien. Si nos motivations ne sont pas les bonnes, c'est hallucinant. Non seulement en désobéissant à Dieu, mais aussi en obéissant à Dieu. Si nos motivations ne sont pas les bonnes. Si c'est le cas, de la même manière que Jésus appelle les pharisiens à reconnaître qu'ils pêchent contre Dieu en l'obéissant, eh bien, il m'appelle moi-même à reconnaître la même attitude en moi, à me repentir, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à me repentir pour le bien que j'ai pu faire, dans mon propre intérêt, non pas par amour pour Dieu, mais par amour pour moi. Dieu, je te sers depuis des années, je t'ai toujours obéi, j'ai toujours été sage comme une image. Je vais à l'église tous les dimanches après-midi. Et tu fais pour les autres ce que tu n'as jamais, jamais, jamais fait pour moi. C'est pas juste. Est-ce que vous reconnaissez cette disposition intérieure, cet état de cœur en moi? Je la reconnais. Et bien si c'est le cas, Jésus qui mange avec des pécheurs invite tous ceux et celles qui reconnaissent cet état de cœur à rentrer dans la maison du Père. À revenir vers un Dieu prodigue qui accueille à bras grands ouverts, tous ceux qui se repentent. Dans sa prodigalité, le Dieu de la Bible est en effet sorti de sa maison. Il est descendu de son ciel pour nous inviter. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est abaissé, il s'est humilié en devenant un homme et en acceptant de se sacrifier, de mourir, d'être condamné à la place de tous ceux qui lui demandent pardon, qui reconnaissent qu'ils ont péché contre lui. Et qui placent leur confiance en lui, dans son amour sans mesure, sans mesure. Le Dieu de la Bible s'est donné lui-même dans la personne de son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque, ne soit pas séparé de Dieu, mais en règle, en paix, en relation avec lui, pour l'éternité. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu es un Dieu prodigue, un Dieu qui s'est donné dans la personne de Jésus-Christ, mort pour nos péchés, condamné à notre place, ressuscité pour notre espérance vivante, et qui revient bientôt. Je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes pour le mal que nous avons fait, mais aussi pour le bien que j'ai pu faire dans mon propre intérêt, pour gagner ta faveur, non pas par amour pour toi, mais par amour pour moi. S'il te plaît, aide-nous à revenir dans ta maison, toi qui nous accueilles à bras grands ouverts et avec joie. Au nom de Jésus. Amen.